Merci d'écouter RFI. Midi et demi en temps universel. Il est 13h30 à Paris et c'est l'heure d'Afrique Midi. Bonjour Victor Moria.
Bonjour Anne Cantner. Bonjour à toutes et à tous. À la une. Alors une Barthélémy Diaz déchu de son poste de maire de Dakar, l'opposant ex-candidat à la présidentielle a été notifié de sa destitution par l'autorité préfectorale du département de Dakar. L'actualité en République démocratique du Congo avec la réponse de Patrick Muyaya à Amnesty International suite aux accusations de l'ONG de potentiels crimes de guerre à Goma en août 2023. Le Rwanda officiellement candidat pour accueillir un grand prix de Formule 1. Le président du Rwanda, Paul Kagame, vient de l'annoncer lors du congrès de la Fédération internationale automobile qui se tient à Kigali. Le dernier grand prix sur le continent a eu lieu en 1993. C'était en Afrique du Sud. Et cela fait 26 ans aujourd'hui que Norbert Zongo et ses trois compagnons ont été assassinés au Burkina Faso. Le président du Conseil supérieur de la communication a rencontré hier à cette occasion les défenseurs du dossier pour une prise de contact. Et puis l'invité d'Afrique Midi, ce soir, le grand débat des candidats à la présidence de la Commission de l'Union africaine se tient à Addis Abeba. Nous serons avec Paul Simon Andy, il dirige le bureau pour l'Afrique de l'Est et l'Union africaine de l'Institut d'études et de sécurité. Au Sénégal, l'opposant Barthélémy Diaz est donc déchu de son poste de maire de Dakar qu'il occupait depuis 2022. Il avait déjà perdu son mandat de député la semaine dernière en cause une condamnation datant de 2017 qui le rend inéligible selon les autorités. Nous sommes avec Juliette Dubois à Dakar, notre correspondante. Bonjour Juliette.
Bonjour Victor.
Et la rumeur enflait depuis quelques jours, mais c'est finalement officiel, Barthélémy Diaz est déchu de son poste de maire.
Oui, plusieurs documents circulent sur les réseaux sociaux depuis ce matin. D'abord, une notification du préfet de Dakar datée de mardi qui déclare Barthélémy Diaz démissionnaire de son mandat de conseiller municipal. Puis un PV de police de notification et remise d'acte daté d'aujourd'hui signé par Barthélémy Diaz. À la mairie, on confirme l'authenticité des documents. Selon ces documents, le préfet a été saisi pour prononcer la démission pour cause d'inéligibilité suite à la condamnation de Barthélémy Diaz pour coup mortel qui date de 2017. La peine avait été confirmée en appel en 2022, puis par la Cour suprême fin 2023. À l'origine de cette plainte au niveau de la préfecture, Baïna Gueye, un militant du PASTEF, le parti au pouvoir. C'est donc un deuxième revers en une semaine pour Barthélémy Diaz, élu député aux législatives du 17 novembre. Il avait été déchu de son mandat vendredi dernier. L'équipe de Barthélémy Diaz ne confirme pas pour l'instant cette nouvelle déchéance et invite à un point presse cet après-midi. Mais lundi, l'opposant dénonçait déjà un acharnement contre lui et prévenait qu'il résisterait aux tentatives du gouvernement sénégalais de lui faire perdre son siège de maire de la capitale.
Merci Juliette Dubois, en direct depuis la capitale sénégalaise où vous êtes notre correspondante. Le Rwanda accueille aujourd'hui l'Assemblée Générale et la grande cérémonie annuelle de remise des prix de la FIA, la Fédération Internationale en charge des compétitions de sport automobile, dont les prestigieux Grands Prix de Formule 1. Lucie Mouillot, vous êtes notre correspondante à Kigali, bonjour.
Bonjour Victor.
Et c'est la première fois en 120 éditions que cette cérémonie se tient en Afrique, un événement qui ravive les espoirs du retour de la grande compétition automobile sur le continent.
Effectivement, et d'autant plus après l'annonce ce matin de la candidature officielle de Kigali à l'organisation d'un Grand Prix, une déclaration formulée par le président rwandais Paul Kagame dans son discours devant les responsables de la FIA. La cérémonie de remise des prix, très attendue dans la soirée et qui réunit les plus grands champions de Formule 1, Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris, eh bien pour le chef d'État, elle témoigne, je cite, de la volonté de l'industrie des sports automobiles de se connecter directement avec les fans et les pilotes en herbe en Afrique. Alors il faut dire que la Formule 1 boude depuis plus de 30 ans le continent, depuis 1993 exactement, et le dernier Grand Prix en Afrique du Sud, souvent lui aussi cité comme un potentiel prochain pays organisateur. En tout cas, l'idée d'un retour des compétitions automobiles suscite de plus en plus d'enthousiasme. On ne peut pas ajouter de course et continuer d'ignorer l'Afrique, dénoncé récemment le pilote et multiple champion du monde, Lewis Hamilton.
Merci Lucie Mouillot en direct depuis Kigali pour RFI. Voilà deux semaines que la ville de Léré, au Mali, subit un blocus djihadiste. Le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans lié à Al-Qaïda, a décrété le 29 novembre un embargo sur cette localité de la région de Tombouctou, à une soixantaine de kilomètres de la Mauritanie. Bonjour David Bachet.
Bonjour Victor, bonjour à tous.
Avec nous en studio pour parler de cette stratégie déjà mise en œuvre à plusieurs reprises dans le centre et dans le nord du Mali par les groupes djihadistes. L'année dernière, la ville de Tombouctou elle-même subissait un important blocus et donc désormais c'est au tour de Léré.
Des camions sont restés bloqués à l'entrée de la ville. Ils ont fini par rebrousser chemin, témoignent plusieurs habitants, de Léré même ou de la zone. Selon un transporteur travaillant dans la région, la route reliant Léré à Niono et plus loin à Bamako est totalement coupée. Même chose pour les camions venant de Mauritanie. Il faut acheminer les marchandises par le fleuve sur des pinasses à partir de Mopti, témoigne ce transporteur, qui ajoute que la montée des eaux complique encore la situation. Un témoignage recoupé par de nombreuses sources locales qui décrivent un blocus total. Des camions venus d'Algérie auraient toutefois pu, selon certaines sources, entrer à Léré. Pas de pénurie en ville, mais les témoignages font état de nombreux produits manquants, lait, pâtes, carburant, ainsi que d'une augmentation des prix.
Et ce blocus, David, imposé par les djihadistes du Jnim, pèse également sur la capitale régionale, Tombouctou.
Oui, pas pour l'approvisionnement, mais pour les déplacements des habitants. Cela a beaucoup réduit les mouvements des cars, témoigne un notable de Tombouctou. Pour rejoindre le sud du Mali, les véhicules font désormais un important détour en empruntant la route de Douenza. Ni les autorités nationales, ni les autorités locales n'ont communiqué sur le sujet. Ils en font un non-événement, déplore un Tombouxien. Au moins une escorte militaire a toutefois été organisée en fin de semaine dernière pour sécuriser des véhicules, selon plusieurs témoignages. Le 23 novembre dernier, une semaine avant l'instauration du blocus, les djihadistes du Jnim avaient déjà détruit le pont de Dabi reliant Léré à Niafunké. Sollicité par RFI, ni l'armée malienne ni le gouvernorat de Tombouctou n'ont donné suite.
Merci David Baché. Au Niger, la BBC suspendue pour 3 mois par les autorités avec effet immédiat et sur l'ensemble du territoire. La radio britannique est accusée d'avoir diffusé des informations erronées tendant à déstabiliser la quiétude sociale et à saper le moral des troupes. Fin de citation. Le gouvernement a par ailleurs, dans un communiqué publié suite à un conseil des ministres extraordinaire hier jeudi, accusé RFI de mener une campagne de désinformation. Il annonce même sa décision de porter plainte, notamment pour incitation au génocide. La direction de Radio France Internationale qualifie cette plainte d'extravagante et diffamatoire, ne reposant sur aucun élément. Les journalistes de RFI, comme toujours, exercent leur métier de façon professionnelle et totalement indépendante et ne publient que des informations vérifiées. RFI et France 24, on le rappelle, sont suspendus au Niger depuis août 2023. En République démocratique du Congo, Patrick Muyaya répond. Le porte-parole du gouvernement a réagi à un rapport d'Amnesty International publié mercredi, estimant que de possibles crimes contre l'humanité avaient été perpétrés par des hauts responsables des forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC. C'était lors du massacre d'au moins 56 personnes à Goma le 30 août 2023. Dans ce document, l'ONG conclut qu'il ne s'agissait pas d'une erreur et appelle la justice à ouvrir une enquête sur la responsabilité des hauts gradés de l'armée, dont l'ancien gouverneur Constant Ndima. En conférence de presse hier, Patrick Muyaya a rappelé que le pays avait déjà engagé une procédure judiciaire suite aux événements de Goma. On l'écoute.
Nous, on n'a pas attendu Amnesty International qui vient une année après la commission des faits. Il y a eu un procès en flagrance. Il y a eu 2 membres du gouvernement qui ont été dépêchés sur place et qui ont donné des réponses sur base des pièces qui leur ont été communiqués. Mais il aurait été souhaitable pour Amnesty International, à travers ses experts, que si eux disposent des preuves impliquant, par exemple, ou démontrant la responsabilité du général Ndima, ils peuvent le transmettre. Parce que nous, nous considérons, comme gouvernement, que sur cette question, il y a une réponse qui a été donnée de manière flagrante. Les responsabilités ont été établies, des condamnations ont été faites, il y a un procès en appel qui est attendu. Je pense que nous devons nous en tenir à ça. Parfois, il ne faudrait pas donner l'impression que nous-mêmes, on ne sait pas rendre justice lorsqu'il y a des problèmes. Et lorsque nous, on a rendu justice, on doit venir nous dire que la justice n'a pas été bien rendue parce que pour certains, pour eux, il fallait absolument que tel ou tel autre puisse être arrêté.
Le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, au micro de Paulina Zidi. Toujours en République démocratique du Congo, les autorités s'attaquent à la criminalité urbaine. 2 opérations ont été lancées au début du mois de décembre par les ministres de la Justice et de l'Intérieur, notamment à Kinshasa, la capitale. Des opérations baptisées Zéro Kulana, du nom des gangs, et Nbodo, hameçon en Lingala, qui ont permis près de 800 arrestations. Selon le ministre de l'Intérieur, des procès en flagrance ont déjà eu lieu, avec à la clé plusieurs condamnations à mort. À Kinshasa, la correspondance est signée Paulina Zidi.
Ces 10 derniers jours, plusieurs audiences foraines ont eu lieu dans différents tribunaux de la capitale. Dernière en date ce mardi à Kinshasa Gombe. À chaque fois, plusieurs dizaines de personnes ont été condamnées, parfois à de lourdes peines, notamment des condamnations à mort. Certains accusés avaient été arrêtés dans le cadre de l'opération Ndobo menée par les forces de police. Et le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a prévenu plusieurs fois que ces peines seraient exécutées. Il faut rappeler qu'en effet, le pays a levé son moratoire sur la peine de mort en mars 2024. Plusieurs détenus jugés la semaine dernière ont d'ailleurs déjà été transférés dans des prisons situées à l'intérieur du pays en attente de l'exécution de ces condamnations. Une situation qui inquiète les défenseurs des droits humains. La Commission nationale des droits de l'homme, dans un communiqué publié ce jeudi, exprime sa vive préoccupation. Elle demande aux autorités de ne pas procéder aux exécutions et exhorte le président à user de son pouvoir constitutionnel pour commuer toutes ses peines. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Au Burkina Faso, à 12h40, en temps universel. Aujourd'hui, cela fait 26 ans que le journaliste Norbert Zongo et ses trois compagnons ont été assassinés à Sapouilly, à une centaine de kilomètres au sud de la capitale Ouagadougou. Le dossier piétine toujours en justice. La France a annulé le décret ministériel qui autorisait l'extradition du frère de l'ancien président Blaise Compaoré vers le Burkina Faso, où il est accusé d'être impliqué dans l'assassinat du journaliste. Le Centre national de presse Norbert Zongo, qui défend le dossier, a reçu, à la veille de cette commémoration, le nouveau président du Conseil supérieur de la communication, Louis-Modeste Ouédraogo, y est allé pour une prise de contact. On l'écoute.
Concernant la disparition du journaliste Norbert Zongo, c'est regrettable que jusque-là, on n'ait pas pu connaître toute la vérité ou qu'il n'y ait pas eu jugement pour au moins, en tout cas, situer les responsabilités. Mon souhait est que cela se fasse le plus tôt possible. Alors, par rapport donc à la situation des restrictions des libertés, si les libertés sont restreintes dans le cadre des lois et règlements en vigueur, je pense que tout ce qu'on doit faire, c'est les accepter. Permettez à l'État de prendre les mesures qui s'imposent pour pouvoir accomplir sa mission régalienne de défense du territoire, de protection des populations. Si ces mesures doivent conduire à des restrictions de liberté, que cela se fasse dans les limites des textes et tout le monde devrait l'accepter. Nous ne devons pas voir donc les restrictions comme une volonté de museler, mais plutôt comme des voies et moyens pour permettre à l'État d'accomplir sa mission de protection de nos limites territoriales, de reconquête de notre territoire, mais aussi de notre souveraineté et pour assurer notre avenir tout simplement.
Le nouveau président du Conseil supérieur de la communication burkinabé, Louis-Modeste Ouédraogo. Il tue plusieurs de personnes chaque année. L'alcool au volant est un fléau en Côte d'Ivoire, surtout au mois de décembre, particulièrement scruté par les autorités car période de fête. Les autorités ivoiriennes viennent donc de lancer l'opération décembre contre l'alcool au volant et multiplient les contrôles. Notre correspondant à Abidjan, Abdulaziz Diallo, a suivi la police spéciale de la sécurité routière sur le terrain. Reportage.
Nous sommes au rond-point Ado, dans la commune de Cocody. Il est bientôt 23h. La police procède à des contrôles d'alcoolémie. Les conducteurs sont sélectionnés au hasard. Si la plupart passent le test sans encombre, ce conducteur est épinglé. L'alcotest affiche un taux de 0,42 g par litre, inférieur à la limite autorisée en Côte d'Ivoire, fixée à 0,80 g par litre. Le conducteur reçoit un avertissement verbal. Il promet de redoubler de vigilance.
Déjà, j'en parlais à mes amis qu'avec l'opération de contrôle de l'alcoolémie, il faudrait réduire la boisson. Heureusement que je suis en deçà du taux, mais ça me servira de leçon. Je ferai attention la prochaine fois.
Depuis le début de décembre, au moins 7 conducteurs ont été contrôlés avec des taux d'alcoolémie allant de 0,93 à 1,65 g par litre, bien au-delà du seuil autorisé. Ces contrevenants s'exposent à des sanctions sévères, prévient le commissaire Dambélé Vassiriki.
Lorsque un usager est testé positif, il est déféré devant le parquet. Son permis est transmis devant la commission de retrait des permis. Il s'ensuit aussi un retrait de 6 points dans le cadre de la loi sur le permis à points.
La Côte d'Ivoire s'est fixé pour objectif de réduire de moitié les accidents de la route. Parmi les mesures phares, l'instauration du permis à points, l'interdiction d'importer des véhicules de plus de 5 ans et la généralisation de la vidéo-verbalisation. Abdulaziz Diallo, Abidjan, RFI.
La diaspora syrienne en Afrique retrouve de l'espoir. Après la chute de Bachar el-Assad dimanche dernier, des milliers d'exilés envisagent enfin de rentrer et de retrouver leur famille. Au Sénégal, où vivent quelques 30 000 Libano-Syriens, Léa Lisa Westerhoff a rencontré Akram El-Hamouri. En 2012, il a profité d'un contrat de travail au Sénégal pour s'y exiler.
Rencontre. Les traits tirés, fumant cigarette sur cigarette, Akram est un Syrien toujours bouleversé par la fuite inespérée de Bachar el-Assad.
Believe me, 3 days, I don't sleep.
Je t'assure, ça fait 3 jours que je ne dors plus. Par moments, je pleure quand je vois l'état des gens qui sortent de la prison. Par moments, je suis fou de joie quand je vois des gens qui retrouvent des membres de leur famille ou des amis qui rentrent au village.
Arrivé au Sénégal en 2012 pour travailler, Akram, 44 ans, n'est plus jamais reparti. Derrière lui, il a laissé une mère et deux filles en Syrie, mais surtout son père et l'un de ses frères arrêtés en 2013 près de Damas. Et depuis la chute du régime, ils ne sont toujours pas réapparus.
J'essaye de les retrouver. J'ai contacté tous mes amis. J'ai regardé toutes les photos de la prison de Kaysar, les unes après les autres. Mais à ce jour, aucune nouvelle. Je pense qu'il est mort, ou du moins j'espère qu'il est mort quand il a été arrêté. Je ne peux pas imaginer autre chose.
L'objectif désormais, c'est de réunir sa famille au Sénégal ou en Syrie. La question n'est pas encore tranchée. Les tirs d'Israël ont tout bouleversé à nouveau.
Ma fille m'a appelé hier et m'a dit qu'ils ont tiré juste à côté de la maison. Elle m'a dit « Viens voir papa, si je le pouvais ». Je rentrerai immédiatement.
Mais pour le moment, comme la Syrie a plongé dans l'inconnu, Akram est une nouvelle fois obligé d'attendre avant de pouvoir rentrer dans son pays. Léa Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Et on termine ce journal avec du sport. Les yeux commencent à se tourner vers Marrakech où sera remis lundi prochain, 16 décembre, le Ballon d'Or africain. 5 candidats, Achraf Hakimi, le Marocain, Simon Adingra, ivoirien, le gardien d'Afrique du Sud, Rowan Williams, Ademola Lookman, le Nigérian, le grand favori, et mais aussi le Guinéen, Serou Guirassy. Cela fait 52 ans qu'un seul Guinéen n'a été sacré meilleur footballeur africain. À quelques jours de la cérémonie des CAF Awards, l'espoir de voir l'attaquant du Chili triompher et grandissant, et ce, malgré la menace du favori Lookman, Tiernora Diallo, à Conakry.
Depuis 1972 et le sacre de Sharif Souleymane, aucun autre footballeur guinéen n'avait réussi à aussi bien se positionner pour le titre de meilleur joueur africain de l'année. Et Serou Guirassy pourrait bien être l'héritier de la star du Afia des années 70. En tout cas, dans la presse sportive locale, la confiance est de mise. Paul Fatia Tunkara, journaliste à Adafo Media.
Il a sorti Stuttgart de la profondeur du championnat pour le propulser sur la scène européenne, en Ligue des Champions pour être beaucoup plus précis. Ses statistiques sont affolantes.
Mais la concurrence est féroce, avec notamment l'attaquant nigérien de l'Atalanta Bergame, Ademola Lookman, décisif en Europe. Le Super Eagle a également fait parler de lui à la dernière CAN et pourrait bien faire ombrage à l'attaquant du Chili national. Ibrahim Massiba et Yacouba Diallo sont respectivement journalistes à Kabak TV et FIM FM.
Lookman, les stats de l'ouverture du championnat jusque-là, quand même il est devant.
Et surtout cette finale de l'Europa League, donc où il a crucifié à lui seul le Bayer Leverkusen.
Avec 6 buts inscrits lors des éliminatoires de la CAN, Serou Guirassy, malgré lui, n'a pas réussi à faire qualifier la Guinée pour Maroc 2025. Mais nul doute que sa cote de popularité est montée en flèche. Tiernora Diallo, Conakry, RFI.
RFI, 13h48, ici à Paris. Le rendez-vous avec l'actualité, c'est dans 10 minutes, 12 minutes sur nos antennes. Mais avant, un rapide rappel des titres de l'actualité avec vous, Anne Cantner.
Un nouveau Premier ministre en France, enfin. Et c'est le centriste François Bayrou qui a été choisi, allié fidèle du président. Un prolongement du macronisme, dit Marine Le Pen, même si l'extrême droite ne parle pas de censure a priori du futur gouvernement. Contrairement à la France insoumise et aux écologistes à gauche qui menacent de censurer si la ligne politique ne change pas. Les socialistes, eux, annoncent déjà qu'ils ne participeront pas au futur gouvernement. Une journée de fête en Syrie ce vendredi. Au moment de la grande prière, des milliers de personnes se sont rassemblées à Damas et dans plusieurs autres villes du pays à l'appel de celui qui a mené la rébellion contre le régime Assad. Et puis Médecins Sans Frontières annonce la fin de ses opérations de secours en Méditerranée centrale. Les lois politiques italiennes rendant impossible, selon l'OMSF, la poursuite du modèle opérationnel actuel pour venir en aide aux migrants. C'est le deuxième grand débat de l'histoire. Le Mjadala Africa se tient ce soir à Addis Abeba. Les 4 candidats à la présidence de la Commission de l'Union africaine s'adresseront aux citoyens du continent. Il s'agit de l'ancien Premier ministre kényan Raila Odinga, de l'actuel chef de la diplomatie djiboutien et de l'ex-ministre malgache Richard Randriamandra. Le dispositif est très important. Le débat multidiffusé sur toutes les télévisions africaines, traduit en 6 langues. Il faut dire qu'à 2 mois des élections, l'enjeu est de taille. Qui se détachera pour succéder à Moussa Faki Mahamat, qui est en poste depuis 2017? On en parle avec Paul-Simon Andy. Il dirige le bureau pour l'Afrique de l'Est et l'Union africaine de l'Institut d'études et de sécurité à Addis Abeba. Et il répond à vos questions, Victor.
Paul-Simon Andy, bonjour.
Bonjour.
C'est le deuxième débat de l'histoire de la Commission de l'Union africaine. Tout d'abord, quelle est la portée de ce débat sur les citoyens africains ?
Alors, la portée de ce débat est double. Premièrement, il permet à la Commission de l'Union africaine de démontrer qu'elle a réussi à introduire des critères de compétence dans la sélection des présidents de la Commission de l'Union africaine, ce qui est un développement très important par rapport à la manière dont les présidents étaient élus les fois dernières. Le deuxième facteur important est qu'il permet aux citoyens africains de juger des candidats, de juger les candidats sur la base des questions qui leur seront posées, permet de voir, de se faire une idée de la compétence de ces candidats. Il faut noter que les citoyens africains, même s'ils se font une idée, ils ne sont pas des électeurs. Ils sont pas, c'est pas eux qui feront le vote, c'est les chefs d'État qui feront dans un vote secret. Mais ça permet aux citoyens africains, justement, de voir, de juger des candidats pour éventuellement aussi juger du choix que les chefs d'État feront plus tard.
Et à quel point est-ce un moment décisif dans la campagne ? Est-ce qu'une partie de l'élection se joue ce soir ?
Une partie de l'élection se joue sur les perceptions. Il faut dire que ce n'est pas non plus une compétition de compétences, c'est-à-dire qu'il est possible que le candidat qui est comme le plus compétent ne soit pas élu. Mais au moins, une partie des perceptions que les Africains et les partenaires se font des différents candidats se joue ce soir. Et ça peut avoir une incidence sur le choix futur des chefs d'État.
Il y a donc trois candidats, le Kenyan Raila Odinga, le Djiboutien Mahmoud Ali Youssouf et le Malgache Richard Randria Mandrato. Est-ce qu'il y a des différences de point de vue fondamentales entre eux sur la manière de gérer la future commission ?
Alors, pour avoir écouté et discuté avec les trois candidats, je ne vois pas de différence fondamentale dans leur analyse de la situation réelle de la Commission de l'Union africaine, ni même de ce qui doit être fait. Je pense qu'il y a plutôt des différences de style. Il y a des différences de style, de méthode, d'approche, et peut-être aussi des différences légères sur les priorités, mais pas de différences fondamentales. J'ai trouvé que les trois candidats sont très au courant des défis auxquels la Commission de l'Union africaine est confrontée et par extension des défis auxquels l'Union africaine, quand même à la croisée des chemins, est confrontée.
Et donc du coup, sur quoi l'élection va se jouer, puisqu'il n'y a pas de différence fondamentale entre eux, qu'est-ce qui va faire qu'un État ou les États vont voter pour un candidat ou pour un autre ?
Alors c'est une élection, comme je disais, dans le collège électoral, se limite au chef d'État. Il y a 6 pays qui sont suspendus, donc finalement, c'est 49 pays qui voteront, 49 chefs d'État qui voteront sur les 55 États que compte l'Union africaine. C'est une élection essentiellement politique. Comme je disais, ce n'est pas un concours de compétences, même si on a établi des critères de compétences. À la fin, c'est finalement des négociations politiques qui aboutissent à l'élection du président de la commission. Donc ça dépend de la capacité des différents pays qui présentent des candidats à négocier, à bâtir des alliances et finalement aussi à créer, à motiver, à s'assurer que si leur candidat est élu, eh bien, il travaillerait en bonne intelligence avec tous les gouvernements. Il faut dire que les États membres restent très importants dans la conduite des affaires de la Commission de l'Union africaine.
Et Paul Simon dit, est-ce qu'un favori se détache déjà à 2 mois de l'élection ?
C'est très difficile à dire, parce que le vote est secret et c'est un vote de chef d'État. Mais on sait que les chefs d'État et aussi leurs ambassadeurs accrédités à Addis qui comprennent le contexte, discutent un peu plus avec les différents candidats, ont des contacts directs avec leurs homologues des pays dont les candidats sont issus. Donc, tout ça influence le vote des chefs d'État. On a d'un côté un candidat kényan, très connu, qui fait l'objet d'une campagne très, très tonitruante, on pourrait même dire tapageuse, Et à côté de lui, deux candidats au profil tout à fait différent, moins flamboyant, plutôt porté sur les détails, la substance et la connaissance des dossiers, et dont la campagne nous apparaît beaucoup plus ciblée et moins tapageuse. Donc, le vote se passant dans le secret d'une élection dont le collège électoral, c'est les chefs d'État, il est très difficile de savoir qui est favori.
Paul Simon-Andy, merci.
Merci beaucoup.
Paul Simon-Andy, directeur du Bureau pour l'Afrique de l'Est et de l'Union africaine de l'Institut d'études et de sécurité. C'était donc l'invité d'Afrique Midi à retrouver sur Pure Radio et RFI.fr, onglet Afrique Midi. On termine ce journal avec le reportage en Tunisie. 3000 ans d'histoire, le pays est considéré comme un site archéologique à ciel ouvert. La découverte de nombreux trésors de pièces de monnaie et autres artefacts antiques lors des fouilles archéologiques au XXe siècle a toujours alimenté les mythes et légendes urbaines sur d'autres trésors présents sur le territoire. Les archéologues et écrivains tentent de lutter contre ces intox qui créent parfois une frénésie dans la recherche illégale de trésors. Lilia Blaise.
Mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver pour une nouvelle chasse au trésor. Nous allons traverser, regardez, la Méditerranée et nous rendre en Tunisie.
Nous sommes en 1983. La Tunisie est la star de l'émission française de Jacques Antoine, La chasse au trésor. 40 ans plus tard, pour certains Tunisiens, chasser les trésors n'est pas un jeu, mais une addiction. Les autorités saisissent chaque année plusieurs centaines de pièces archéologiques, artefacts, céramiques, tessons, résultats de fouilles illégales aux grandes dames des archéologues, comme Aïcha Ben Abed.
C'est pas spécifique à la Tunisie, c'est un peu partout. Hein. À un moment en France, hein, les gens dans leur petit village, ils sont en train de faire des trous pour essayer de trouver des trésors. Bon, c'est pas vrai. Enfin bon, on trouve pas des trésors comme ça. Premièrement, c'est vraiment exceptionnel. C'est dans des contextes très précis.
La trouvaille de trois grands trésors spectaculaires, faits d'or et de statues antiques, a rythmé le XXe siècle.
Les pièces de bronze, statues et mobilier, protégées par une gangue de concrétion, ont mieux résisté aux outrages du temps et de la mer.
Le trésor marin antique de Mahdia, découvert en 1909 par des pêcheurs d'éponges, puis celui de Rouga, datant de l'époque byzantine et fouillé en 1972. Et enfin le trésor romain de Chemtou, exhumé en 1993.
Mais finalement, pour un archéologue, c'est bien de faire une telle trouvaille, mais surtout de préciser, de savoir d'où ça vient, quelle est la chronologie, pourquoi c'est là. C'est ça, en fait, le questionnement historique et l'importance d'une telle trouvaille.
Dans son livre « 5 histoires de trésors », l'écrivain Samir Marzouki s'est inspiré non pas des faits divers de chercheurs d'or illégaux,
le trésor de la Palmeraie,
mais plutôt des histoires de son enfance.
Dans les récits de nos grands-mères, il y a presque toujours des trésors. Il y a toujours des trésors cachés, etc. Et je pense que cela travaille pas mal l'imaginaire des gens, et certains y croient, quoi.
Dans ces récits, Samir Marzouki rappelle que le plus important dans la recherche du trésor reste l'apprentissage autour de la quête. La persévérance, le travail d'équipe, au-delà de l'appât du butin.
Donc pourrait se trouver là. La rose et sable, je ne vois rien.
Des atouts que mettait aussi en valeur l'émission de Jacques Antoine, le trésor tunisien de cette édition était à l'époque une rose des sables. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
RFI, midi 58, en temps universel, c'est la fin de cette édition d'Afrique Midi. Merci à vous de l'avoir suivi et merci à Maëlle Guyot à la réalisation. Dans quelques secondes, même tout de suite, on vous retrouve, Anne Cantner, RFI Midi.
Pour le rendez-vous d'Haïti et des Amériques, dernière partie d'RFI Midi. On se retrouve dans une minute, à tout de suite.
Un jour au village, Penaï Traoré.
En République démocratique du Congo, 8 ménages sur 10 utilisent le manioc dans l'alimentation quotidienne. Mais ce tubercule est attaqué depuis plusieurs années par des maladies ravageuses, dont la maladie des nécroses racinaires. Quelles conséquences sur la culture du manioc en RDC?
Un jour au village, avec Penaï Traoré, tous les samedis à 13h10 TU sur RFI.
Afrique, mémoire d'un continent, avec Elgas.
Comment enseigne-t-on l'histoire de l'Afrique, celle de la Côte d'Ivoire, aux collégiens et aux lycéens de Côte d'Ivoire? Face aux pensées définitives, fantasmes, vœux, la mémoire du continent sera au lycée Sainte-Marie de Cocody pour explorer une question certes épineuse et passionnelle, mais surtout urgente.
Afrique, mémoire d'un continent.
Dimanche à partir de 8h10 TU sur RFI.